Et vous écoutez France Culture. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vois qu'ils n'ont pas traîné pour le brûler. John Carpenter. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui fait retour ce soir à l'univers de H.P. Lovecraft et surtout à ses adorateurs, adaptateurs ou disciples masqués au cinéma et en bande dessinée. Ce suite notamment la sortie chez Ecstasy of Film d'une version collector Blu-ray et DVD du mythique réanimateur de Stuart Gordon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre. Lovecraft ce soir à l'affiche de Mauvais genre. Il y a 15 jours, nous évoquions avec notre ami Jérôme Vincent, surtout avec Christophe Thiel, la parution chez ActuSF de la phénoménale biographie de Joshi, consacrée évidemment à Lovecraft. Et ce soir, suite de notre mini-cycle Lovecraft avec ses adaptateurs et ses disciples, je le répète, au cinéma et en bande dessinée. Je serai évidemment entouré de Jean-Pierre Dionnet. Comment va-t-il ?
Eh bien, il va bien.
Il va bien. Où en est ce livre de mémoire que le monde entier attend ?
Eh bien, ce livre que, en tout cas, moi j'attends personnellement pour en savoir plus sur moi-même.
Vous plus que les autres.
S'appelle « Mais plus loin, moi ».
Mémoire.
Oui, parce que c'est comme les mémoires photographiques ou les mémoires en mathématiques. Ce sont des fluctuations constantes. Donc, au bout du compte, on en saura peut-être pas beaucoup plus qu'on en sait aujourd'hui. C'est ce que j'ai remarqué dans ma vie, qui est pleine d'incongruité, d'incohérence, mais enfin, ça sera ma vie.
De voilà. Sentiments aussi, parce que la moirure, ça fait qu'on appelle la lumière au sentiment, c'était beau la moirure.
Oui, mais la moire c'est joli, mais enfin, faut se méfier, suivant les angles, ça change tout le temps. Et donc, j'estime que je n'aurais pas fait mon tour de moi-même.
Très bien, ben les découvertes à la rentrée donc des moirures existentielles et intérieures de notre ami Jean-Pierre Dionnet. Bonsoir Fausto.
Bonsoir François.
Événement.
Un événement, oui, au week-end de Pâques, il y aura un excellent festival qui s'appelle Hallucination Collective.
Qu'on salue.
Du 16 au 22 avril, programmation très axée Blaxploitation. Il y aura aussi des romans porno japonais et une carte blanche donnée à Hélène Cattet et Bruno Forzani, les réalisateurs d'Amer, de L'étrange couleur des larmes de ton corps, etc., etc.
Qui ne perdent rien pour attendre, qui sont menacés d'une visite de mauvais gens. On verra quand à la rentrée dans la saison prochaine. Bonsoir Philippe Rouillet.
Bonsoir.
J'ai envie de dire quels sont les grands crus, genre plaisanterie prévisible, quels sont les grands crus cinématographiques du Festival de Beaune.
Alors on va dire que le grand prix qui s'appelle Face à la nuit, qui est un film taïwanais de Winding Ho, m'a laissé un petit peu sur ma faim, parce que c'est pas parce qu'on reprend Peppermint, Candy et irréversible dans la structure que ça suffit. Mais alors il y a deux films dans la compétition que je défendais beaucoup qui sortent ces jours-ci en salle, que vous pourrez donc voir. C'est Alpha, le film de Brillante Mendoza, qui est assez incroyable sur la corruption policière aux Philippines, hein, sachant que on est dans une dictature et le réalisateur Mendoza est au cœur de la dictature, dénonce la corruption dans la dictature. C'est assez vertigineux et c'est incroyable comment on voit. C'est la mise en scène, c'est à la Fuller. Et il y a une emprise dans le réel qui est très belle. De même, il y a El Reino, qui est un film sur la corruption, elle, politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le film, c'est le film espagnol de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre. Ce qui est très intéressant, c'est que tout le film est du point de vue du corrompu. C'est-à-dire qu'on a 2h10 de fuite en avant où, et si vous regardez l'actualité, c'est exactement ça. C'est pas moi, je n'ai fait que les ordres, c'est pas de ma faute, il y a plus corrompu que moi, et si je plonge, vous plongez avec moi. Voilà. Et puis, dans 109, peut-être le meilleur film du festival, dans la section 109, qui a eu d'ailleurs le prix 109 à l'unanimité, c'est un film de Craig Zahler, Drag Across Concrete, avec Mel Gibson, extraordinaire, en flic marmoréen, qui ne fait pas du tout les effets habituels. Le film fait 2h20, plonge au cœur d'une enquête, et avec un engrenage terrible. C'est à la fois hyper cool sur le ton, c'est pour ça qu'on prend 2h20 pour raconter l'histoire, et en même temps implacable dans le récit. La mauvaise nouvelle, c'est que le film ne sortira pas en salle en France, c'est Metropolitan qui a le film, il le sortira directement en DVD Blu-ray, et je suggère, François, qu'à mauvais genre, on ne loupera pas cette sortie,
comme
parce
on
que
dit,
c'est vraiment un film très important cette année.
Voilà, merci messieurs pour toutes ces sympathiques et goulayantes actualités. Je me tourne maintenant vers Céline Duchesnès, qui ce soir a la larme à l'œil.
Une habile transition, oui, je vais vous parler de prunes ou d'œillets.
Vous souhaitez exprimer votre tristesse, factice, imaginaire ou même réelle ? Faites appel à la larme dionysienne. Décès, séparation, avortement, dépistage positif, mariage forcé, déménagement, expulsion, baptême, condamnation, radiation Pôle emploi, naissance, élection, licenciement, la larme dionysienne intervient en toutes circonstances. Pleurs sur place ou à distance, sincérité garantie. Voilà. Pour moi, mes pleureuses, les pleureuses, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour déverser la tristesse du monde. Et il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension d'apparence assez burlesque et décalée. Et puis, il y a aussi une autre dimension bien plus sérieuse qui est de s'autoriser à nettoyer par les larmes ce qui stagne dans la matière et les vibrations actuelles.
Prune Oudéyer est pleureuse. Elle s'inscrit dans la filiation de ces femmes qui pouvaient accompagner les cortèges funéraires ou celles qui le font encore, sans oublier les banshees, ces créatures féminines surnaturelles celtes qui prenaient l'apparence de jeunes filles en pleurs pour entraîner leurs victimes vers la mort. Prune Oudéyer, elle, est une pleureuse contemporaine. Elle investit l'espace public, elle pleure pour la vie, pour la mort, pour la joie, pour tout type de situation. Son groupe de pleureuses est composé de femmes aux jupes larges, corsages et fichus sur la tête, portant une grosse couronne remplie d'offrandes. Elles se tiennent les unes à côté des autres, avancent, tombent à genoux, se tordent, s'évanouissent, suffoquent, se prennent dans les bras. Elles parlent, chantent, mais surtout, elles pleurent. On découvre alors l'incroyable partition sonore des pleurs, des gémissements aux lamentations, en passant par le sanglot, du pleur bulgare au pleur dit de caractère, du pleur chevrotant à celui du nouveau-né à chaque situation, son type de pleurs.
En fait, ça amasse l'énergie parce que il se remplit d'air en fait. C'est rempli d'air entre chaque pleur. C'est pas un pleur qui se déverse. Alors à l'opposé, par exemple, on a l'espèce de râle impudique qui ressemble à ça. C'est assez fort. C'est vraiment le pleur qui permet d'évacuer. Ça déverse, on déverse tout là. Ça arrive en général après. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une montée dans une sorte d'hystérie pour arriver au déversement. C'est pas le point le plus culminant, parce que je dirais que le point le plus culminant, c'est le rire. Le rire, il arrive vraiment après un pic. Tellement on arrive au summum du pleur qu'on passe au rire. Après, alors il y a la larmiche émotive. La larmiche émotive, ben, c'est par exemple les yeux qui se mouillent, qui commencent un petit peu. Enfin, l'émotion monte. Hein. Donc, je sais pas, je vais essayer de le faire, mais je ne sais pas si je vais réussir à être aussi juste. Voilà, je me lance.
Oh.
fait cette rencontre avec l'alarme de cette manière-là.
Je pense que je suis une vraie pleureuse. Dans ma famille, on me disait qu'il fallait que j'étais trop émotive, qu'il fallait que j'arrête de pleurer. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, si j'ai besoin de pleurer, que ce soit pour quelque chose de joyeux ou quelque chose de triste, en fait, je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est un peu comme un cadeau, quoi, de pouvoir livrer un peu d'intériorité, quoi. Et en fait, moi, ce qui... Je sais pas pourquoi, c'est donc la figure de la pleureuse m'a toujours inspirée. Et du coup, aussi à travers le chant, mes recherches de chant, j'ai toujours été attirée par les chants où on perçoit une sorte de cri, une sorte de... C'est, voilà, moi, les chants où il y a un cri sous-jacent, ou même complètement assumé aussi, hein, comme dans les chants de flamenco, c'est du cri, hein. Il y a quand même plein de questionnements par rapport à la condition humaine, ce qu'on est venu faire sur cette terre, les mystères célestes, bon, à travers toutes les religions et la spiritualité en règle générale, hein, au-delà des religions, bien sûr. Pour moi, la larme, c'est vraiment relié, quoi. C'est relié à l'esprit. Et à la terre, quoi. Donc à l'incarnation, à la chair, à la condition humaine, quoi.
Pour retrouver Prune Oudeye, direction son compte Instagram, où vous pourrez retrouver en image l'univers de cette pleureuse qui a bien d'autres cordes à son arc d'ailleurs, joueuse, danseuse, chanteuse, clown. Mais pour les vrais amateurs de larmes, vous pourrez retrouver Prune Oudeye et ses pleureuses à l'occasion du carnaval organisé par le collectif de la Briche Foraine, qui se tiendra au centre Georges Pompidou à Paris et devant le Parvis le week-end du 11 et 12 mai.
Merci Céline pour cette rencontre avec Prune Oudeye. Mais alors effectivement, on n'est plus là dans le pleur méditerranéen, tragique, Prosper Mérimée, Sophocle. On est plus dans une sorte de quelque chose qui est plus carnavalesque en définitive.
Mais je crois que tout pleure à sa situation et que Prune est capable d'être complètement méditerranéenne et pleureuse tragique, tout comme pleureuse peut-être un peu plus burlesque ou clownesque.
Monsieur Dionnet.
Ça me rappelle les chansons de Gilbert Bécaud. On était 200 à l'enterrement de Cornelius. N'en manquait pas un des vieux amis de Cornelius. On a rigolé pour Cornelius.
Merci Céline, merci Jean-Pierre. Donc maintenant on va rigoler, mais cette fois, je ne sais pas si on va rigoler, en tout cas on va hurler pour Lovecraft. Voilà l'ouverture de notre playlist Lovecraftienne, signée bien évidemment de Laurent Polleret. Alors, l'événement qui nous rassemble ce soir, outre Lovecraft et toujours cette biographie de Joshi chez QSF, c'est bien sûr la sortie chez Ecstasy of Film, que l'on remercie, de l'édition, avec un grand E, de donc Réanimateur de Stuart Gordon, monsieur Philippe
Rouillet. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait une belle édition avant chez Metropolitan, mais celle-ci la dépasse largement. Déjà, c'est une édition HD, au format respecté, avec deux Blu-ray. Et évidemment, ce qu'on attendait depuis longtemps, du moins en France, c'est la version Extended Cut, donc la version longue. Alors, les choses sont très bien faites parce qu'on a dans cette édition à la fois la version qu'on connaît, dans une copie magnifique, et dans une copie tout aussi belle. C'est-à-dire que c'est pas on vous a foutu en bonus un truc qui fait pleurer les yeux, mais plus complétiste. Non, non, on a aussi travaillé sur la version extended, qui intègre en fait la majorité des scènes coupées qu'on peut avoir par ailleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ces scènes coupées ne sont pas des scènes horrifiques en soi, mais qu'elles développent les personnages. C'est-à-dire qu'il y a des versions, il y a des scènes qui sont un peu plus développées avec plus de dialogue, et puis il y a d'autres scènes et qui montre évidemment le caractère encore plus fou d'Herbert West, qui densifie les personnages. Alors, peut-être un mot quand même sur Réanimateur.
Alors
déjà,
voilà, sur l'histoire, parce que c'est tiré donc de Herbert West Réanimateur, voilà. Récit donc de Lovecraft.
Qui a en fait un récit feuilletonesque que Lovecraft écrit entre 21 et 22, et Stuart Gordon, qui avant d'être cinéaste, s'occupe d'un théâtre, l'Organic Theater à Chicago, avec des représentations parfois gore sur scène, avec des choses très très différentes. C'est un authentique passionné de fantastique, c'est-à-dire que c'est pas comme certains réalisateurs qui ont fait carrière en disant « moi quand je serai riche et connu, je ferai autre chose ». Non, lui, il y a un vrai intérêt, et il a un vrai intérêt pour Lovecraft.
Et bruit Lovecraftien qui vous est offert, mesdames, messieurs, par Radio France. On vous en dira plus la prochaine fois. Philippe.
Et au départ, oui, tout le monde est sauf, je vous rassure. Et au départ, il a l'idée de faire en fait une série pour la télévision. Il veut faire une série de 13 fois 30 minutes pour la télévision. Et y aurait un Herbert West réanimateur dans cette série. Mais alors, pour vous donner une idée, le type est tellement fou de son idée qu'il veut faire en noir et blanc et 16 mm, quasiment sur la scène de son théâtre. C'est-à-dire que c'est un projet vraiment hardcore. C'est là-dessus qu'il s'aperçoit que, évidemment, personne n'est intéressé par ça. Il rencontre Brian Usna, le producteur qui veut se lancer dans un film d'horreur, et qui lui dit, de toute façon, ça va pas être possible. Déjà, ce serait au moins une heure. Donc, le projet évolue en une série télé de 5 fois une heure. Et puis finalement, Usna lui dit, mais laisse tomber, on va faire un film. On va faire un film, et il réussit à avoir un million de dollars de budget. Et alors, l'idée de ce film, c'est de rester fidèle à Lovecraft en l'adaptant totalement.
Alors voilà, on entre dans le débat, qu'est-ce qu'adapter Lovecraft, voilà. Et est-ce possible, si oui, comment?
Alors, le pari de Stuart Gordon, c'est de dire, on va rajouter des choses qui sont pas dans le livre, mais qui vont amener le spectateur à ressentir des choses qu'on peut ressentir chez Lovecraft. C'est-à-dire qu'il rajoute un couple de jeunes personnages. Dans le livre, il n'y a pas du tout cette formidable Meg, la blonde, la fille du doyen de l'université de médecine, qui est interprétée par Barbara Crampton, et il n'y a pas cet étudiant prometteur qui est joué par Bruce Abbott. Et le film commence presque comme un sitcom, une histoire amoureuse entre les deux, un petit peu épicée de sexe, mais pas trop. Et puis tout d'un coup, il y a la figure glaçante d'Herbert West qui est jouée par Jeffrey Combs,
sérieuse.
Qui est donc... lui aussi est un étudiant, mais beaucoup plus en avance que les autres. Il est même plus doué que son professeur, le redoutable Dr. Hill. Et il a mis au point un sérum pour réanimer, c'est d'où le titre, réanimer les morts. Alors le problème, c'est que...
une fois que sérum mentholé et fluorescent.
Et fluorescent à l'écran. Ce qui est une très belle idée. C'est très simple, mais c'est à l'image du film de Gordon. C'est-à-dire que c'est des effets spéciaux qui sont assez simples, mais très très spectaculaires. Mais une fois que vous avez ressuscité les gens avec ce sérum, ça ne va pas du tout. Voilà. Et vous ne contrôlez rien à ces zombies. Et l'idée du film, c'est d'arriver à avoir une sorte de vertige visuel. Ce que dit Stuart Gordon, il dit, si vous avez l'impression qu'un film d'horreur va faire quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, votre imagination va se débrider complètement. Et donc, l'idée de débrider l'imagination du spectateur, c'est un peu le mettre à la position du lecteur de Lovecraft, dont l'imagination se débride par le style littéraire.
Herbert West n'est pas très sexy, mais niveau matière grise, c'est une lumière.
Vos expériences ne servent à rien. Votre théorie sur la nécrose du cerveau est totalement dépassée, professeur Hill, et je le prouverai.
Son seul défaut Il a la grosse tête.
Ce chat est mort, on ne peut plus mort. Je vais réanimer son cerveau. Regarde ce qui va se passer.
Il faut avouer que ses expériences ne sont pas des plus orthodoxes.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais enfin devenir célèbre.
Si le professeur a perdu la tête, Herbert va prouver que la sienne est pleine.
Herbert West a réussi à réanimer des cellules mortes du cerveau. Alors, professeur, vous nous dites quelques mots? Vous... Si ça a marché avec un chat, pourquoi pas avec un homme?
Herbert West se prend pour le bon Dieu, mais Dieu a horreur de la concurrence.
Tu es fou, tu te rends compte de ce que tu as fait?
Parfaitement. Mais il est mort.
Mais il est mort. Fausto, alors, donc, animateur.
Ah, il est mort, pas sûr. Non, mais je pense que Stuart Gordon a pris, en fait, Lovecraft par le meilleur bout, dans le sens où, comme le disait Philippe, il capitalise, en fait, sur une extrapolation, en fait, des interstices qui n'existent pas. Et surtout, c'est vrai que Stuart Gordon, c'est quelqu'un qu'on associe au cinéma gore souvent, mais il y a quelque chose qui est passionnant chez lui, c'est son écriture, et la version longue, effectivement, révèle un talent de caractérisation qui fait que le film, aujourd'hui encore, fonctionne très bien, parce que ce n'est pas qu'un film qui capitalise sur des scènes chocs, c'est un film qui travaille justement beaucoup en creux ses personnages, et si les personnages sont marquants, à commencer par le docteur Herbert West, c'est parce qu'ils ont été vraiment travaillés par Gordon, qui est quelqu'un qui vient du théâtre, qui a toujours soigné ses personnages, et qui est un intellectuel. C'est pas un réalisateur qui, effectivement, fait du gore pour le gore, et qui propose un simple choqueur, c'est quelqu'un qui, justement, veut pousser le genre un petit peu plus loin, et Lovecraft lui permet d'atteindre ce plus loin.
Et l'idée, c'est du rire, parce que ce qui est quand même très extraordinaire, c'est par exemple, il offre l'inverse du tabou de la nécrophilie. Dans la nécrophilie, vous faites l'amour à un mort, et ben là c'est un mort qui vous fait l'amour, sous forme de cunnilingus en plus.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, cette nouvelle que Lovecraft n'aimait pas trop, il disait qu'il avait faite comme ça, a eu de multiples enfants. Par exemple, la première bande dessinée qui adapte Herbert West, c'est dans les EC Comics, c'est Weird Science, et ils prennent le dessinateur le plus glamour de l'école, qui s'appelle Jacques Kamen, qui fait des jolies femmes, de jolis hommes et tout. Tout le monde est charmant, sauf que c'est l'histoire d'une résurrection. Ça s'appelle d'ailleurs Résurrection, c'est dans Weird Science. D'ailleurs, les EC vont souvent adapter Lovecraft. Comme ils n'ont pas les droits, ils ne vont jamais le citer. Mais généralement, quand il y a un manuscrit maudit sur la table dans Vault of Horror, c'est toujours le Necronomicon.
Alors la question se pose d'adapter Lovecraft, puisque c'est quand même un peu comme Jules Verne, c'est un peu le grand rendez-vous manqué. Guillermo del Toro avec les montagnes hallucinées, je pense qu'on attendra longtemps de voir les montagnes. Heureusement qu'il y a la bande dessinée de Gutanabe dont on va parler. Là, le film de Stuart Gordon est formidable. Cela dit, on mentionne au début Arkham, université de Miskatonic, et puis c'est fini. C'est aussi un problème quand même, c'est que la dimension lovecraftienne, gothique, pénombrale, basée sur une espèce de résurgence du passé, là, elle disparaît. Vous me direz, c'est pas un film Cthulhu, c'est pas un film grand ancien. Voilà, c'est vrai qu'Herbert West, ça n'a rien à voir.
C'est quand même très à part que sa version frankensteinienne. Mais Jean-Pierre avait raison de dire que justement, c'est un récit que n'aimait pas Lovecraft. En fait, faut-il croire les auteurs, c'est une paire de manches, mais il a toujours dit qu'il avait fait ça pour l'argent et que d'ailleurs, le rythme feuilletonesque de la publication atteste de cette théorie-là. Le gros problème de l'écriture lovecraftienne, c'est qu'elle est anticinématographique. C'est-à-dire que, un, on a des descriptions très longues, et on sait très bien que l'image, en une seconde, montre... Alors, c'est très compliqué. Et puis, surtout, la prose et l'univers de Lovecraft marchent beaucoup sur l'indicible. Et donc, le cinéma, c'est le contraire de l'indicible. Parce que ça va bien, la suggestion, mais ça a ses limites. Et l'énorme risque dans lequel se sont engouffrés pas mal d'adaptations de Lovecraft, c'est de se retrouver avec des créatures un peu toc et un peu en plastoc et qui n'aboutissent à rien. Et que finalement, on se retrouve exactement comme dans la bande dessinée dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, au-delà des questions de droit, c'est qu'on se retrouve avec des bouquins, des nécronomicons qui traînent sur la table, et à partir de là, on laisse l'imagination du spectateur, mais il n'y a pas grand-chose sur l'écran.
Jean-Pierre.
Oui, j'allais dire que dans le cinéma, pour le dire vite... tous les bons films lovecraftiens, ce ne sont pas des adaptations de Lovecraft, sauf peut-être le très étrange The Resurrected de Dan O'Bannon, qui n'a pas marché du tout et qui était très lovecraftien. Voilà, très lovecraftien. Il y avait de ça dans Alien, d'ailleurs, de O'Bannon. Il y avait des éléments lovecraftiens. Mais je pense que le cinéma le plus proche de Lovecraft, il ne l'a pas connu, c'était le cinéma expressionniste allemand. Je pense que dans Caligari, je pense que dans Nosferatu, il y a des images lovecraftiennes.
C'est parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il préférait voir Le Monde Perdu, mais il était contemporain de ses...
Assez fermé. Il était fermé sur la musique. Comme il disait, la musique, c'est des trucs négroïdes. Il était assez clair. Et moi, ce qui me paraît être la rencontre ratée extraordinaire dans la vie de Lovecraft, qui a dit ses admirations, c'est dans l'image, dans l'imagerie. Il a eu avant lui un illustrateur qui a écrit un livre qui est lovecraftien et qui l'illustrait de manière lovecraftienne, c'est Kubin avec l'autre côté. On pourrait coller Kubin à côté des textes de Lovecraft et on aurait peut-être la plus belle vision possible de l'immontrable, car dans Kubin, on ne montre pas vraiment, on suggère des combinaisons visuelles qui nous effraient sans qu'on les comprenne.
Fausto ?
Oui, le paradoxe, c'est que selon moi, le réalisateur qui a le mieux retranscrit des sensations lovecraftiennes est un réalisateur qui, lui, joue beaucoup sur le montrable, c'est Lucio Fulci. Un film, par exemple, comme L'Au-delà, convoque toutes les thématiques cosmiques qu'on retrouve chez Lovecraft. C'est quelqu'un qui a vraiment saisi, justement, toute la force du récit lovecraftien et qui l'a traduite avec ses propres outils très frontaux. Et je pense que Fulci, c'est sincèrement le réalisateur qui s'est le plus rapproché avec Carpenter par certains moments.
Je te parler de Carpenter. Folie,
voilà, qui est effectivement un film totalement lovecraftien, une mise en abîme qui est vertigineuse. Mais Lucio Fulci, il me semble être vraiment le réalisateur le plus lovecraftien qui soit.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Alors, film lovecraftien, mais non labellisé comme tel, puisque remake, donc Fausto, c'est, on parlait de Carpenter, L'Homme de la Folie, mais également La Chose, The Thing.
Ah The Thing, c'est la traduction graphique, quasi littérale, en fait, de concept lovecraftien. C'est traduction de tous les fantasme de lecteur et fantasme de John Carpenter. Et là, pour le coup, l'indicible nous est montré, nous est balancé à la figure de manière tellement vivante que c'est le film n'est pas une plongée dans un univers lovecraftien, c'est littéralement l'univers lovecraftien qui vient à vous, en fait. Et je pense que c'est la particularité d'un film comme The Thing, qui, je pense, n'a jamais été vraiment égalé. En plus, c'est un film qui a été pas très bien reçu quand il l'est sorti.
C'est très étrange. Hein, ça.
C'est un film qui reste très étrange. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un film expérimental, mais c'est un film dont le rythme est très très particulier.
Ce qui est bien dans le film de Carpenter, c'est qu'il vous donne à vivre l'horreur. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement spectateur, mais on se retrouve projeté dans les personnages et les histoires terribles qui arrivent à leur corps, c'est presque comme si on les vivait. Je pense notamment à ce médecin qui essaye de faire revenir le rythme cardiaque, vous savez, et avec ses mains, le massage cardiaque, et tout d'un coup, le thorax s'ouvre et va lui couper les mains. Et ce moment-là est un moment de frayeur lovecraftienne où là, justement, on va pouvoir contourner la question de la représentation.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, j'allais dire qu'il nous donne la clé, Carpenter, un peu, quand il fait L'Emprise des Ténèbres, où il signe le scénario Martin Quatermass.
Prince des Ténèbres.
Le Prince des Ténèbres aussi, oui. Martin Quatermass, hommage à Nigel Kneale. Et c'est vrai que toute la série des Quatermass, le monstre et la suite, et même le Halloween, le cri du sorcier, sont des films lovecraftiens. Voilà, le troisième sont des films lovecraftiens où on ne voit pas grand-chose, ça c'est la force de Nigel Neal, mais où on suggère beaucoup, et surtout on suggère, je pense justement de ce Halloween 3, les enfants dont tout à coup les yeux s'exorbitent et dont sortent des créatures monstrueuses, les habitués d'Halloween n'ont pas aimé ce film, parce que tout d'un coup ils ont été face à une horreur enjouée, avec des musiques enfantines, où tout se défaisait et se déliquait. Mais je crois que le premier cinéaste lovecraftien, ils ne sont jamais cités comme lovecraftiens. C'est une séquence dans Vaudou de Tourneur, quand on regarde la mer et qu'elle dit c'est joli, et que le type dit non, en dessous ça grouille, c'est mort, c'est affreux, c'est la vie et c'est la mort. Et ça sera aussi Rendez-vous avec la peur de Tourneur, avec ce monstre qu'on voit hélas, où là aussi on est dans la suggestion. Et ça sera aussi Darkwater de son disciple Nakata, où l'inquiétude naît de choses normales. Et je dirais même qu'à ce moment-là, je mettrais dans les films lovecraftiens qui ne le savent pas, l'ancien scénariste de Salo qui fait son premier film d'horreur, Pupi Avati, avec La maison aux fenêtres qui rit. C'est-à-dire, très curieusement, tous les grands films lovecraftiens, pour moi, sont des films qui ne sont pas lovecraftiens. La Sentinelle des Maudits de Michael Winner,
qui vient de ressortir dans une belle édition chez ESC, parce que jusqu'ici, on avait des versions qui faisaient pleurer les yeux. Hein.
C'est un film très sous-estimé. Le grouillement dans le toit de créatures est absolument terrifiant. Et puis, il y a ce film par effraction, dont j'ai suivi la naissance, la destinée et tout ça. Il y a Providence de René.
Mais oui, formidable.
Ce n'est pas 77. Pour rien. Moi, j'étais le jour où on a tourné la séquence autour de la pyramide du parc Monceau.
Et qu'on retrouve dans Stavisky.
Qu'on retrouve dans Stavisky, exactement. Et il disait, oui, au départ du film, je ne voulais pas faire Lovecraft, puisque je n'ai pas fait Lovecraft, mais il se glisse par tous les coins. Alors maintenant, en prenant David Warner, par exemple, qui vient de jouer dans La Malédiction, en jouant sur des côtés gothiques, il fait du Lovecraft, mais dans un film qui n'est pas lovecraftien. En fait, tous les grands films que j'aime ne sont pas lovecraftiens, et la seule adaptation, non de Lovecraft, mais d'un de ses disciples, ou plutôt d'un de ses ancêtres, Montagre James, la meilleure, c'est Jonathan Miller, qui fait pour la BBC, François l'a vu.
Absolument.
Siffle et je viendrai, en anglais, Whistle and I'll Come for You. C'est Jonathan Miller qui a fait que de l'opéra jusqu'à présent et qui fait un 45 minutes restauré par le BFI où on ne voit rien, mais où on est constamment terrorisé par ce qui est off et par ce qu'on ne voit pas.
Il y a quelqu'un ?
Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tu crois que c'est un homme ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps a-t-il resté seul avec lui ?
Je crois que Blair ne tourne plus rond.
De lui laisser le commandement sans savoir s'il n'est pas une de ces choses ?
Je ne sais pas à qui me fier.
Alors maintenant, on a suffisamment d'éléments en main pour essayer de définir ce qui peut être lovecraftien ou pas, et d'où vient le sentiment lovecraftien, parce que si on prend la chose de Carpenter, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est une entité spatiale qui brusquement percute la Terre et qui vient sur Terre, on ne sait pas pour quelle raison, mais qui est là. Donc il y a déjà cette idée d'une sorte d'altérité monstrueuse qui vient de l'espace et qui se cache sur la Terre, dans les profondeurs de la Terre, puisque dans le film, on voit très clairement qu'il s'agit d'un vaisseau spatial enterré sous la glace, place. Donc il y a déjà cette idée de l'underground, cette idée que le monstre vient d'en bas. C'est pas le monstre tombe du ciel, mais avant tout, il remonte. C'est-à-dire, c'est un retour. On est dans cette idée du feedback, du retour de la monstruosité, qui est présente de toute éternité, qui agit peut-être, mais on ne sait pas avec qui et comment. Donc, il y a déjà cette idée-là. Et puis après, il y a le dévoilement, la révélation, c'est-à-dire au sens propre du mot, le voile est levé. Alors, le voile, évidemment, c'est le voile de chair, comme on dit, puisque c'est les corps qui habitent le monstre. Et brusquement, la révélation a lieu et le monstre apparaît. Et puis, c'est le monstre qui est tapis sous les profondeurs de la maison, puisque le final, on peut hélas le dire à nos auditeurs, le final, c'est la grande explosion, pulvérisation de la base arctique par le monstre qui se réveille. Donc peut-être qu'il y a cette idée de la profondeur, cette idée de l'habitation archaïque et cette idée d'une espèce de brusquement de retour comme ça de la bête, Fausto.
Oui, puis c'est souvent au moment de la révélation que le bât blesse pour certains metteurs en scène. Alors que là, John Carpenter arrive à mener son projet jusqu'au bout. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'évident dans tout ce que vous venez de dire, François, c'est que l'homme n'est qu'une toute petite partie d'un mécanisme en fait. Il y a ça chez Lovecraft, et que quoi qu'il en soit, il n'arrivera jamais à maîtriser la grande machine cosmique qui finira par l'écraser. C'est en tout cas ce que nous dit John Carpenter.
Oui, j'allais dire que Lovecraft, c'est aussi le regard sur les autres. Par exemple, quand Polanski regarde par la fenêtre dans le locataire et qu'il voit ses voisins qui sont tout d'un coup étranges sans changer vraiment, c'est du Lovecraft. Mais pour moi, il y a un grand film lovecraftien qui a été un bide noir, c'est la suite de L'Exorciste l'Hérétique. Parce que Pazuzu, ce fameux démon ailé qu'on cherche tout le temps et qui peut surgir, pour moi, c'est Cthulhu. Totalement. Et c'est pour ça que ce film n'a pas marché du tout, parce qu'on attendait une suite catholique, avec des démons traditionnels. On se retrouve en Afrique et on cherche un démon ailé qui existe d'ailleurs dans plusieurs livres de Lovecraft. Ce démon qui est à la fois ailé et en même temps un petit peu reptilien. C'est Pazuzu. Je pense que Berman a voulu faire le contraire de Friedkin.
Bah, il détestait le film de Friedkin.
Il détestait le film de Friedkin.
Qu'on lui avait proposé au départ.
Voilà, exactement. Et en fait, il fait un film lovecraftien sans le savoir. Comme c'est un intellectuel, c'est tant mieux, parce qu'il n'aurait jamais voulu adapter Lovecraft. Mais il fait du Lovecraft. Et je trouve qu'il y a des moments extraordinaires dans L'Hérétique, qui est un film qui mérite d'être vu.
Ah bah absolument, hein. Je suis content de vous l'entendre dire.
C'est un film panique, vraiment panique.
Alors, on parlait de Darkwater, Fausto, donc là aussi, il y a tout l'élément, il y a toute la dissémination, la germination lovecraftienne dans le cinéma asiatique.
Oui, c'est vrai. Après, il y a des raccourcis qu'on peut faire aussi, mais qu'il faut néanmoins éviter. C'est que toute créature tentaculaire ou tentaculesque ne dérive pas forcément de Lovecraft. Il y a toute une imagerie dans la culture populaire japonaise qui peut parfois faire penser à Lovecraft, mais qui ne descend pas directement de Lovecraft. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce qu'ont fait certains auteurs, qu'ils soient mangaka ou réalisateurs, avec ce concept d'horreur cosmique. Parce que c'est vraiment l'horreur cosmique en fait qui sous-tend une partie du fantastique en animation, en manga et aussi au cinéma. Juste un petit mot sur la manière dont Lovecraft a été découvert au Japon. C'est à la fin des années 40 où a commencé à circuler des récits de Lovecraft. Et en fait, très très curieusement et de manière un peu rigolote, en fait, on n'a pas eu le droit à des traductions au sens strict du terme, mais plutôt à des réappropriations. Il y a des sortes de remakes en fait littéraires qui était écrit par des auteurs japonais de grandes œuvres de Lovecraft, et sa notoriété a augmenté avec les années, et Dogawa Rampo l'avait recommandé.
Dont on parlera dans 15 jours.
Voilà, l'avait recommandé dans une liste des récits les plus terrifiants qu'il avait signé pour un magazine de mystère, comme on appelle ça là-bas. Et puis ensuite, dans les années 70, il y a eu un gros boom de la littérature de science-fiction et des magazines de science-fiction, et les œuvres complètes de Lovecraft ont été traduites en 73. Ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point en fait Lovecraft a impacté, à partir justement des années 70, l'imaginaire de tous les créateurs japonais. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Junji Ito, qui est un mangaka effectivement génialissime et l'un des maîtres titre du manga d'horreur, qui avoue très clairement avoir eu un choc irréversible avec la découverte de Lovecraft et de l'horreur cosmique, tant et si bien que lui-même divise son œuvre en fait en deux parties, les récits à la Edgar Poe et les récits à la Lovecraft. C'est dire à quel point Lovecraft est quelqu'un qui compte pour lui. Et ensuite, effectivement, l'onde de choc a poursuivi jusqu'à des metteurs en scène tels que Hideo Nakata, que citait justement Jean-Pierre. Et puis aussi, après, en animation, il y a des œuvres parfois un petit peu psychotroniques et tordues telles que Urutsuki Dōji, où là, on convoque effectivement toute cette idée de grands anciens.
Le début est assez éloquent. Là.
Oui, exactement.
Dans l'érotisme de la tentacule.
Voilà, donc on a une sorte de mix entre à la fois le folklore japonais et puis le folklore des yokai, évidemment. On pourrait même extrapoler en parlant du genre Kaiju Eiga. Est-ce que le Kaiju Eiga ne serait pas une sorte de matérialisation à l'écran de concepts lovecraftiens? J'ai vu, il y a un débat sur Internet où des gens s'écharpent pour savoir si Godzilla est une créature lovecraftienne
ou pas.
Justement,
c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même pas mal de critères qui sont rassemblés. Les profondeurs, l'archaïsme, la mutation et le retour.
Le truc, c'est que...
Et la terreur, bien sûr.
Effectivement, il y a une sorte de démesure tout à fait lovecraftienne chez Godzilla, mais vu que c'est une créature qui est quand même issue d'une certaine manière de la main de l'homme et de ses expérimentations...
Ce qui n'est pas le cas chez Lovecraft.
Chez Lovecraft, c'est une puissance qui domine
tout ça. Le côté mutant industriel chez Godzilla qui n'est pas lovecraftien.
Exactement.
Jean-Pierre ?
Et Junji Ito, ces deux films que j'ai sortis en mon temps, c'est Uzumaki de Nijinsky qui est très fidèle, c'est Spirale, qui sont des films extrêmement dérangeants puisque ce sont à la fois l'histoire d'adolescents, donc avec tout le côté cute, mignon, et les garçons se transforment de manière horrible, les filles, tout d'un coup, le visage traversé, deviennent des spirales. C'est tout à fait terrifiant, d'autant que la mise en scène est un peu clipeuse, un peu jolie, un peu MTV. Et ce que ça montre est totalement effrayant. Mais c'est vrai que Junji Ito, pendant très très longtemps, est le maître absolu. Je dirais que celui qui n'a jamais cité Lovecraft et qui prend la suite pour moi, c'est Niei, parce que je trouve que le monde des profondeurs de Blame, avec ce côté viscéral, ce côté piranèse et l'humain minuscule, c'est extraordinaire. Et sa nouvelle série, qui est en gros le négatif d'être humain, la radiographie, qui s'appelle Aposymes, c'est sidérant, puisqu'il a commencé par montrer des mondes noirs de créatures qui sont presque du cubine, et tout d'un coup, il ne montre plus que la radiographie des personnages, il n'existe plus. On voit à peine la définition de leur corps et de leur squelette, comme si l'humain n'avait plus de place dans ces histoires.
Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que tous ces artistes qui travaillent sur Lovecraft, mais finalement sans le dire, transforment ça en une sorte d'atelier permanent. Et comme on ne dit pas que c'est Lovecraft, ils sont à l'abri des critiques en disant c'est une trahison, etc. Eux, Lovecraft, pas du tout. Ce qu'il faut quand même savoir, qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a un tel intérêt que chaque année, il y a un festival à Portland, en Oregon, qui est le Lovecraft Film Festival. C'est-à-dire que chaque année, on trouve moyen de montrer des œuvres. Par exemple, en août prochain, l'invité d'honneur sera la fille de Vincent Price. Donc, on va revoir, évidemment, La Malédiction d'Arkham, le film de Corman de 63. Mais il y a aussi tout ce qu'on a eu dans l'année, dans le monde entier, qu'on peut plus ou moins rapprocher à Lovecraft. Et il y a même, pendant ce festival, une compétition où des jeunes auteurs ont 72 heures pour faire un court-métrage inspiré de Lovecraft à partir d'une phrase de Lovecraft que les gens du festival vont leur donner au début. Hein, et ils ont 72 heures pour faire un film. Donc, c'est dire...
C'est une idée qu'on pourrait importer en France.
C'est dire si Lovecraft, c'est quelque chose de très vivant dans la culture artistique contemporaine et peut-être parce qu'on n'arrive pas à l'adapter que c'est une sorte de défi qui entretient l'imaginaire des auteurs.
Alors, question Jean-Pierre Dionnet, vous qui êtes producteur de cinéma. Comment se fait-il qu'une pareille malédiction frappe Lovecraft, qu'on arrive, comme Jules Verne d'ailleurs, je reviens dans les obsessions, pourquoi on n'a pas le grand film lovecraftien, alors que pourquoi par exemple on a arrêté Les Montagnes Hallucinées en production, qu'est-ce qui fait que...
Alors d'abord je dirais que moi quand j'ai vu tout le livre de Guillermo del Toro de son adaptation lovecraftienne possible, j'ai eu très peur. Car tout était très défini, très clair, les monstres avaient des articulations possibles. Et je me suis dit, ce n'est pas ce que j'attends de Lovecraft. On entre dans une espèce de Taxidermie. Je n'attendais pas ce film. Alors, quand je vois que Nicolas Cage annonce un projet avec ce fou furieux de Richard Stanley, je suis inquiet, inquiet.
On peut vraiment l'être.
Mais je pense que Lovecraft est non seulement indicible, mais essentiellement immontrable. Alors, j'ai vu quelques cours argentins, italien, argentin essentiellement, anglais, de 20 minutes, en noir et blanc, un peu flou, pas blairwitchien, je dirais un peu flou d'une manière borgésienne, qui fonctionnait parce que j'avais l'impression d'apercevoir quelque chose, mais avant que je puisse définir, ça m'échappait. Et pour moi, c'est ça Lovecraft, c'est-à-dire quelque chose que je regarde... Et je me dis, mais est-ce que j'ai bien vu ça? Oui, j'ai vu l'horreur, mais je n'ai pas senti que j'avais vu l'horreur. C'est après qu'elle me pénètre, m'habite et que je deviens moi-même une créature lovecraftienne.
Voilà, pendant que Laurent Polleret diffusait la bande-son lovecraftienne de ce soir, on évoquait Bertrand Mandico qui effectivement serait un cinéaste rêvé pour Lovecraft. Rêvons à notre tour et regardons l'avenir. Alors on parlait d'Argentine, on parlait de Borges. Rappelons qu'une des pastiches, un à la manière d'eux, les plus extraordinaires qui a été faite de Lovecraft, c'est Borges qui l'a fait. Dans, je crois, Histoire de l'infamie, Histoire de l'éternité, il y a cette histoire, ce personnage qui parcourt des salles opératoires de chirurgie avec des tables opératoires de plus en plus vastes et puis à un moment qui grimpe à une échelle pour passer d'une pièce à l'autre et qui entend quelqu'un marcher derrière lui, ça doit tenir en deux pages. Et il y a un élixir, il y a un condensé narratif de la Stimmung Lovecraftienne absolument extraordinaire. Alors parlons maintenant.
Il y a un autre Argentin qui a carrément pompé, je ne sais pas s'il a fait exprès, Lovecraft.
Les tentacules sont faites pour ça.
C'est Julio Cortázar dans Les Armes Secrètes. Absolument. La nuit face au ciel est exactement une nouvelle de Lovecraft qu'a adapté Corben. C'est-à-dire qu'on est à la fois en train de sacrifier chez les Mayas, le héros rêve qu'on va le sacrifier et réalise à la fin dans les deux cas que oui, on va le sacrifier, c'est l'homme moderne qui rêvait qui est le songe.
Alors parlons Argentine, parlons bande dessinée avec vous Jean-Pierre. Effectivement, le lieu où renaît pour Lovecraft en bande dessinée, c'est peut-être Buenos Aires, Horacio Lalia, Breccia. Alors là on a quand même des aboutissements extraordinaires.
Ah oui, alors Breccia, il est, on va pas dire en fin de carrière, mais il a fait le tour de tout. Et donc quand il commence à faire pour Il Mago, dans les années 70, Lovecraft, il essaye de trouver un trait nouveau. Donc il va mélanger collage, peinture, surimpression. Et dans la deuxième partie de ses histoires lovecraftiennes, il va simplifier à l'extrême et je m'y perds un peu. Mais la première partie est brillantissime, extraordinaire. Il fait ça avec Biscaglia, qui est un grand qui respecte le texte. Il reprend les textes intégralement et dans les images, il montre très peu. C'est plutôt l'absence. Alors, à noter que son fils, ce n'est plus disponible, Enrique Breccia, avec un scénariste qui a travaillé d'ailleurs sur The Thing dans la première version de Carpenter, comme quoi le monde est minuscule, va faire une assez jolie adaptation, mais plus classique. Et puis arrive Laila. Alors Laila, je dirais que Laila, il prend le temps nécessaire pour raconter Lovecraft, c'est-à-dire il prend les temps morts et les créatures sont définies comme des motifs géométriques variables. Il est bien dit que ce qu'on voit, ce n'est pas exactement ce qu'on regarde. On nous dit que le héros voit les choses changer. Mais Laila réussit une adaptation à peu près parfaite et très classique. Et il y avait même eu avant chez Glénat un nommé Herman Rodriguez qui avait fait Le Temple, où pareil, on avait ces espèces de fluctuations. C'est vrai que l'Amérique du Sud, l'Argentine, le pays de Torre Nilsson, des choses qui font peur alors que c'est simplement une fenêtre dans le grenier qui fait peur et on ne saura jamais qu'il y a derrière. L'Argentine est un pays assez lovecraftien dans sa tradition littéraire de réalisme magique. Sauf que le réalisme magique naît du quotidien. Chez Lovecraft, c'est la magie qui vient envahir notre quotidien. Donc, évidemment, tout le monde est heureux. Et c'est vrai que dans la collection de Borges, sa célèbre collection de livres, il y avait tous les ancêtres de Lovecraft qui ont été recensés.
Dunsany.
Mais je crois que le grand pays pour Lovecraft, au fil du temps, ça a été l'Amérique du Nord, très nettement. Parce que si les EC Comics ont complètement raté le coche, quand arrive Creepy, Eerie, alors il va y avoir Marvel qui va faire quelques adaptations pas trop mal, mais on peut passer outre dans les années 70. Harry Warren et arrive une nouvelle génération de dessinateurs. Bernie Wrightson va adopter Cool Air, l'air froid, qui est une des plus belles nouvelles de Lovecraft, avec un dessin presque à Joseph Clement Cole, très début de siècle. Et il fait extraordinairement peur. Après du Lovecraft en BD, il va y en avoir encore et toujours chez Warren. Il va y avoir Gary Gianni, qui est un chroniqueur judiciaire, et qui va faire un livre qui s'appelle Corpus Monstrum, qui est un livre d'humour. Eh bien, je peux vous dire que son humour avec ses personnages de tête de poulpe, également dans un traité archaïque volontairement, est absolument extraordinaire.
Disponible chez Mosquito.
C'est disponible chez Mosquito, Corpus Monstrum de Gianni, qui par ailleurs a fait Prince Vaillant, qui est tout à fait classique. Et puis, il y a eu la première revue lovecraftienne de bande dessinée dans les années 70, c'était Skull. Spécial Lovecraft, avec tous ces dessinateurs un peu noirs comme Greg Irons, comme Michael Smith, comme Jack Jackson, et un débutant qui s'appelait Corben. Ensuite, je ne vais pas dire qu'il y a eu le Metal Hurlant spécial Lovecraft.
Il faut quand même le dire, j'allais le dire à votre place.
Mais
c'est quand
je
même...
le dis quand même, couverture de Giger, qui est un cousin, on peut le dire, à l'intérieur, Druyer. Alors Druyer, il a commencé avant. Il a fait un portfolio au Necronomicon. Il a fait d'autres planches dans les cahiers de Lerne. Il en fait d'autres là. Il va illustrer Démons et Merveilles. Mais je dirais que mon grand regret dans ce spécial Lovecraft de Metal Hurlant, c'est Moebius, qui prend pas du tout au sérieux Lovecraft, qui rigole avec, alors qu'il avait fait de très belles illustrations pour François Rivière, avec un type au bureau, et on voit ses pieds de poulpe. Je dirais que le grand livre lovecraftien français, il est paru avant, c'était Révélation posthume, d'Andreas et Rivière.
Absolument, avec un extraordinaire roman lovecraftien, où on évoque Barlow, le disciple.
Et toujours chez Mosquito, une découverte pour moi, c'est un livre de Rodolphe et de Marcellet qui s'appelle « Une nuit avec Lovecraft » où une jeune fille de 2025 va rencontrer Lovecraft, voyage temporel, glissement de temps, en 1930 et parler avec lui. Et le dessin un peu malade de Marcellet, que Marcellet ne prenne pas ça mal, la déliquescence de son dessin fait qu'on est dans l'adaptation absolument parfaite et... Je dirais enfin, et pour terminer sur les bons adaptateurs de Lovecraft, que évidemment il y a une partie de Hellboy, mais il y a aussi le nommé Cuthbert qui a adapté avec la même fidélité que Laila.
Laila.
Il a adapté avec la même fidélité quatre récits de Lovecraft. C'est chez Aquileos et c'est très très brillant, car très raide, très classique et on ne voit rien.
On peut conclure cette sombre parade, Fausto, avec Les Montagnes Hallucinées de Gutanabe, donc chez Kiun. Alors là, c'est en cours, deux volumes parus.
Bah, Gutanabe et Lovecraft, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plusieurs années. Ce qui est drôle et triste pour Junji Ito, c'est que Junji Ito voulait faire une véritable adaptation en manga de Lovecraft. Et en fait, Gutanabe lui a grillé la politesse. Donc, Les Montagnes Hallucinées, si on devait se pencher sur ce titre-là, c'est un petit peu l'os à ronger et qu'on rongera tout le temps en attendant de ne jamais voir le film de Guillermo del Toro. C'est vraiment, je pense que leur sensibilité à tous les deux sont assez proches dans l'envie d'en montrer un maximum. L'avantage pour Gutanabe, c'est que techniquement, il est est particulièrement doué et surtout il n'a aucune limite budgétaire, donc il peut aller très très loin. Et pour boucler la boucle, en fait, la source d'influence première de Tanabe, c'est vraiment le cinéma. Et c'est pour ça que l'une de ses grandes références, c'est évidemment The Thing de John Carpenter, qu'il a beaucoup lu, étudié, disséqué, et qui lui a permis en fait de constituer une sorte de socle graphique que lui-même va exploiter ensuite à travers le dessin pour son manga Les Montagnes Hallucinées.
Et là où on voit qu'il a pigé, si j'ose dire, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est que notamment au début, les montagnes ont déjà l'air de monstres concassés, comme ça, de fossiles colossaux. Et puis après, quand on arrive sur les fossiles, ils ressemblent à des montagnes. Donc il y a pour le lecteur une sorte d'indétermination permanente entre ce qui est la créature et ce qui est le milieu de la créature. Et c'est très effrayant parce qu'on n'arrive pas à faire le point, si j'ose dire. On n'arrive pas à décrocher la créature. Tout est mélangé, tout est concassé, tout est un peu broyé ensemble. Et effectivement, il y a un sentiment de terreur qui naît de l'incapacité à déterminer tout cela.
Complètement. Et puis pour ceux qui ne sont pas très amateurs de l'esthétique manga, je les encourage vraiment à y aller, puisque on est face à un trait qui ne ressemble pas en fait à ce qu'on retrouve habituellement dans le style, on va dire, standardisé de la production manga. Là, on est plus parfois entre Bernie Wrightson, Gustave Doré aussi à certains
Absolument,
moments.
Ouais.
Du coup, ça donne une sensation de limite d'intemporalité et on ne sait pas trop quelle est la nationalité en fait de l'auteur.
Eh oui, le Clulu est apatride, il faudra bien s'y résoudre. Un mot, monsieur.
Un mot. Un jeune homme qui débute en faisant du Lovecraft dans Pilote, c'est Bilal. Un illustrateur de métal hurlant, mais pas seulement, qui a très bien illustré Lovecraft, entre autres chez Neo, c'est Nicolet.
Absolument.
Et un homme qui a fait une fois Lovecraft admirablement, mais seulement quelques pages, c'est Dino Battaglia dans le livre Le Golem chez Mosquito.
Et quelqu'un qui finit toujours mauvais genre, c'est Christophe Beer.
Les nécrologues sont pudiques. Comme pour conjurer le sort, ils préfèrent le verbe disparaître à celui de mourir. Concernant James Hodge, spécialiste de la magie et illusionniste lui-même, décédé le 3 février 2019, l'euphémisme s'imposait. Mais plus que l'escamotage, c'est le motif de la multiplicité qui le caractérise le mieux. Artiste complet et boulimique, il vécut plusieurs vies, guidé par ses passions et la liberté. Né à Paris en 1928, de parents d'origine anglaise avec un père déporté dans les camps, il travaille très jeune, exerçant pendant les entr'actes des cinémas son premier don, la ventriloquie, faisant parler des poupées qu'il fabrique avec du matériel de récupération. Vers 1947, il travaille avec les clowns Zig et Zag, découvre le milieu du cirque, part sur les routes avec les Fratellini. Téméraire, il perd un bout de mollet en tentant de remplacer le dompteur de fauve. Avec Grand Marc, un ex-trapéziste, il conçoit ses premiers numéros de pantomime, une spécialité qu'il développe ensuite avec son épouse, en créant une compagnie de marionnettes et en s'inspirant de la manipulation à vue de la technique japonaise Bunraku. D'une compulsive inventivité, Hodge devient un conseiller artistique incontournable de la magie, épaulant Gérard Majax pour ses divertissements télévisés et concevant de nombreuses scénographies. Son palmarès est éclectique, faisant le grand écart entre Ève et les bonnes pommes, obscure comédie naturiste pour laquelle il règle un numéro de tir à l'arc, et les effets de théâtre noir pour un spectacle de Michel Polnareff à l'Olympia. Décorateur et costumier pour l'opéra et le théâtre, il ressuscite L'illusion sanglante du Grand Guignol en 1974 sur la scène de l'Européen à la demande de Christian Fechner, pour lequel il concevra plus tard le storyboard et les illustrations de lanterne magique de son film Justinien Trouvé ou le bâtard de Dieu. Car l'artiste est doué pour le dessin. Sous divers pseudonymes, dont Jim Fou sonne au plus près de sa nature prodigue, il illustre des boîtes de magie pour Dominique Webb, des cartes à jouer, anamorphoses, plaquettes sur les entresorts et l'art optique avec l'éditeur Georges Proust, avec lequel il dépoussière la revue Mad Magic. Élève de Paul Collin, il est fasciné par la danse et en restitue les mouvements en quelques traits dans la presse musicale, tandis que les magazines frivoles s'arrachent ses pin-up aux cheveux ébouriffés. Adepte du trait rapide, il trousse d'allègres BD érotiques en petit format qui mêlent liberté sexuelle et science-fiction avec des héroïnes rarement habillées. Magicien, ventriloque, scénographe, illustrateur, James Hodge brouille les repères, nous laissant avec son plus beau tour l'impossible recension de tous ses forfaits.
Voilà, et pendant que Christophe Beer parlait, Jean-Pierre Dionnet citait cette phrase de Saint-Philippe de Providence « Je ne crois qu'à ce que je ne vois pas ». Très très bonne idée. Je rappelle les sujets traités ce soir. Donc Stuart Gordon, réanimateur, Le Collector, c'est chez Ecstasy of Film.
Qui sort dans quelques jours, attention.
Voilà, c'est dans quelques jours dans les bacs. Gutanabe, Les Montagnes Hallucinées, deux tomes parus, c'est chez Kiun. Les Mythes de Cthulhu par Breccia, c'est chez Rackham. Horatio Lalia, Les Cauchemars de Lovecraft, L'Appel de Cthulhu, autre récit de terreur, c'est chez Glénat, de Yann Kulbard, donc c'est chez Achilleos. Tous les Corben sont chez Delirium, que serait-on sans Delirium? Et puis Gianni Corpus Monstrum, c'est aux éditions Mosquito. Toute l'équipe de Mauvais Jean, Laurent Polleret, Philippe Mercher, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Fausto Fazulo, Céline Duchesnay, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Jean. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie d'Alain Morvan, le maître de chantier de Dracula et autres récits vampiriques qui sort en Pléiade. Et d'ici là, bonne nuit à tous.